Chapitre 11. La conspiration de Sylla découverte, Cétégus et Lentulus étranglés, le cadavre de Catilina retrouvé sur le champ de bataille de Pistoie, on crut Rome sauvée. Il en était de même en 1793, après chaque conspiration découverte. La France aussi fut sauvée 11 fois dans le même mois. Encore une victoire comme celle-ci, disait Pyrrhus après la bataille d'Héraclée, où il avait laissé la moitié de ses soldats, la moitié de ses chevaux, la moitié de ses éléphants, et je suis perdu. C'était Cicéron surtout qui était dans cette croyance qu'il avait sauvé Rome. Sa victoire l'aveuglait. Il croyait à cette alliance du Sénat et des chevaliers, des aristocrates de naissance et des aristocrates d'argent, qui avait été son rêve. Mais il ne tarda pas à douter lui-même de la durée de cette paix gélatineuse. Comment rendre son mot de concordia conglutinata? De ce replâtrage, c'est à peu près cela. Quant à César, nous l'avons dit, il avait été trop heureux de s'effacer dans cette circonstance. Lorsqu'il était sorti du Sénat, au moment où Cicéron, traversant le forum, criait en parlant des complices de Catilina « Ils ont vécu !» Plusieurs des chevaliers qui formaient la garde de Cicéron s'étaient élancés contre César, l'épée nue. Mais Cicéron, nous l'avons dit, le couvrit de sa toge. Cicéron, comme faisait parfois le peuple en faveur du gladiateur qui avait bien combattu, au regard d'interrogation que lui jetaient les jeunes gens, répondit par un signe sauveur. Et en effet, quoique César ne fût encore qu'un mauvais sujet perdu de dette, on ne tuait pas César comme on tuait un Lentulus ou un Cétégus. Et la preuve, c'est qu'on eût pu le tuer soit à la porte du Sénat, soit dans le forum, soit en traversant le champ de Mars. Et la preuve encore, c'est qu'on eût pu tuer Catilina et qu'on n'osa point le faire. Seulement, quoique le fait soit rapporté par Plutarque, souvent, il nous a pris l'idée de mettre en doute le récit de l'historien de Chéronée. Suétone se contente de dire que les chevaliers qui étaient de garde tirèrent leur épée et en tournèrent la pointe contre César. Cicéron, ce grand hableur, n'en parlait pas dans l'histoire de son consulat, qui est perdu, mais que Plutarque connaissait, et Plutarque s'en étonne. Comment se fait-il que Cicéron, qui se vante parfois de choses qu'il n'avait point faites, ayant fait une chose de cette importance et si honorable pour lui, ne s'en soit pas vanté. Au reste, plus tard, la noblesse blâma Cicéron de ne point avoir saisi cette occasion de se défaire de César et d'avoir par trop préjugé de l'affection du peuple pour celui-ci. C'est qu'en effet, cette affection était grande, très grande. Témoin ce qui se passa quelques jours après. César, fatigué des accusations sourdes qui le poursuivaient, se rendit au Sénat pour se justifier et, en entrant, annonça à quelle occasion il y entrait. Or, une violente querelle s'éleva parmi les sénateurs sur la culpabilité ou la non-culpabilité de César et, comme la séance se prolongeait, le peuple, craignant qu'il ne lui fût arrivé quelque malheur, environna la salle en jetant de grands cris et en demandant qu'on lui rendît César. Ce fut même à ce propos que Caton, craignant un mouvement de la part des pauvres, disons plus, de ceux qui avaient faim et qui, dit Plutarque, avaient mis dans César toutes leurs espérances, la chose est claire, obtint du Sénat cette fameuse distribution de blé mensuel qui devait coûter chaque fois quelque chose comme 10 à 12 millions. César vit bien qu'il lui fallait un nouvel appui. Il se mit sur les rangs pour être préteur. Nous avons dit comment on faisait son chemin à Rome. Tout jeune homme de bonne famille étudiait le droit chez un jurisconsulte et l'éloquence sous un rhéteur. La vie romaine était publique. Elle appartenait à la patrie. On défendait ou l'on attaquait le gouvernement avec la parole et l'épée. On signait, comme en Amérique, avocat et général. Pour se faire connaître, on dénonçait un proconsul. Il y avait une certaine grandeur à cela. On prenait le parti du peuple contre un homme. Ainsi fait César. Il plaide d'abord contre Dolabella, puis contre Publius Antonius. Il échoue contre le premier et est obligé de quitter Rome. Mais c'est en Grèce même qu'il plaide contre le second, devant Marcus Lucullus, prêteur de Macédoine, et il a un tel succès que Publius Antonius, qui craint d'être condamné, en appelle au tribun du peuple sous prétexte qu'il ne pouvait obtenir justice contre les Grecs dans la Grèce même. À Rome, dit Plutarque, son éloquence, en brillant au barreau, lui acquit une grande faveur. Puis, une fois connu, on se mettait sur les rangs pour l'édilité. L'édilité était, à peu de choses près, notre mairie moderne. Voyez les élections anglaises avec leurs hustings, leurs meetings, leurs boxings, leurs accusations de bréverie. C'est en petit ce que les élections de Rome étaient en grand. Il y avait, au reste, à Rome, ce qu'on n'a osé faire encore ni en France ni en Angleterre, un manuel du candidat. Il est de l'an 688 de Rome et est signé Q. Cicero. Ne pas confondre avec Marcus Tullius. Quintus n'est que le frère d'un grand homme. Donc, le moment venu, le candidat se revêtait d'une robe blanche, symbole de la pureté de son âme, candidatus, ce qui veut dire aussi bien blanchi que blanc. Puis il faisait ses visites aux sénateurs et aux magistrats d'abord, puis aux gens riches, puis aux chevaliers, puis aux nobles, puis enfin au peuple. Le peuple se tenait au Champ de Mars. Les 300 000 ou 400 000 votants étaient là, attendant les candidats. Les candidats se présentaient, suivis du cortège de leurs amis. Pendant que le candidat intriguait de son côté, les amis intriguaient du leur. Le candidat avait son nomenclateur qui lui disait tout bas les noms et la profession de ceux auxquels il adressait la parole. Vous vous rappelez toutes les tendresses de Don Juan à Monsieur Dimanche quand il veut en tirer de l'argent? Figurez-vous cette scène répétée 100 fois dans la même journée. Formes différentes, même fond. 2 ans d'avance, le candidat pratique le peuple. Il a célébré des jeux. Il a loué et fait louer, dans les cirques et dans les amphithéâtres, des places par ses amis, et ces places, il les a gratuitement distribuées au peuple. Il y a envoyé des tribus entières, et particulièrement sa tribu à lui. Enfin, il a donné des festins publics, non seulement devant sa porte, non seulement dans sa tribu, non seulement dans différents quartiers, mais souvent encore dans toutes les tribus. Cicéron citait comme une chose extraordinaire que Lucius Philippus fût arrivé aux dignités sans avoir employé ce moyen. Mais en échange, Tubéron, petit-fils de Paul Émile et neveu de Scipion l'Africain, avait échoué dans sa demande de prêteur parce qu'en offrant un repas public au peuple, il avait fait dresser des lits d'une forme commune et couverts de peaux de bouc au lieu de housses de prix. Vous voyez quel sybarite était le peuple romain qui non seulement voulait bien manger, mais qui encore voulait être bien et richement couché en mangeant. Beaucoup entreprenaient des voyages dans les provinces pour récolter des suffrages dans les municipes qui avaient droit de voter. Paterculus cite un citoyen qui, voulant être édile, envoyait chaque fois qu'il y avait un incendie à Rome ou dans les environs, ses esclaves pour l'éteindre. Le moyen était si nouveau que celui qu'il avait inventé fut nommé non seulement édile, mais même prêteur. Par malheur, Paterculus oublie de citer le nom de ce philanthrope. En général, l'élection était plus chère. On n'était guère nommé édile à moins d'1 million, questeur à moins d'1,5 million ou 2 millions. Mais pour être prêteur, on sacrifiait tout. En effet, la prêture, c'était la vice-royauté d'une province. Notez qu'une province de ce temps-là, c'est un royaume d'aujourd'hui. Or, dans ce royaume que l'on dirigeait pour 4 ou 5 ans, que l'on occupait avec une armée, de l'argent duquel on disposait, sur les habitants duquel on avait droit de vie et de mort, on donnait rendez-vous à ses créanciers. C'est là qu'on liquidait les fortunes les plus embarrassées, qu'on se faisait des bibliothèques, des collections de tableaux, des galeries de statues. C'était là, enfin, que l'on convoquait ses huissiers et ses gardes du commerce et que, presque toujours, on s'arrangeait à la satisfaction des deux parties. Parfois aussi, quand la province était ruinée, que l'on succédait à un Dolabella ou à un Verrez, ou bien quand on n'était pas bien sûr de la moralité de son débiteur, les créanciers s'opposaient au départ. César, nommé prêteur en Espagne, trouva au moment de sortir une telle masse de créanciers assemblée devant sa porte qu'il fut obligé d'envoyer chez Crassus. Crassus, qui voyait Catilina mort, qui comprenait que Cicéron ne tiendrait pas, qui ne pouvait pardonner à Pompée son affaire des gladiateurs, comprit que l'avenir était entre César et Pompée, et il pensa qu'un placement chez César lui rapporterait de gros intérêts. Il répondit pour César de près de 5 millions, et César put partir pour l'Espagne. Disons, en outre, et la chose pourrait bien être pour les trois quarts dans ce prêt si étonnant de la part d'un pareil avare, disons que César était l'amant de sa femme, Tertullia. Au point de vue moderne, cela rabaisse peut-être bien un peu César, mais César n'y regarde pas de si près. C'est en se rendant en Espagne, en traversant un petit village des Gaules cisalpines, que César dit ce joli mot « J'aimerais mieux être le premier ici que le second à Rome ». En effet, à Rome, à côté de ses pouvoirs réels, conquis par le glaive ou l'éloquence, à côté de Pompée et de César, il y avait ce qu'on appelait les sept tyrans. C'étaient les publicains, les usuriers, les prêteurs à la petite semaine. C'étaient les deux Lucullus, Metellus, Hortensius, Philippus, Catulus et enfin Crassus. Ce dernier avait hâte d'être autre chose qu'un des sept tyrans. Il avait hâte d'être un des trois. Or, il voyait dans l'avenir un triumvirat, Pompée la victoire, César la fortune, lui l'argent. On verra que Crassus n'avait pas trop mal lu dans l'avenir. Au bout d'un an, César revint d'Espagne. Qu'y avait-il fait? On n'en sait rien. Personne n'osa l'accuser, mais à son retour, il paya ses dettes, et cette fois, personne n'eut besoin de lui prêter de l'argent. Seulement, Suétone dit « Il est prouvé, par les propres monuments qu'il a laissés, qu'en Espagne, il reçut du proconsul et des alliés l'argent qu'il demanda avec instance comme un secours pour acquitter ses dettes. » Mais cela, ce n'est pas emprunter. C'était prendre, puisqu'on ne rendait jamais. Suétone ajoute encore « Il pilla plusieurs villes de la Lusitanie, quoiqu'elles n'eussent fait aucune résistance et qu'elles eussent ouvert leurs portes à son arrivée. » À son retour à Rome, César trouva Pompée. Ces deux grands rivaux étaient donc face à face. Voyons ce qu'était devenu Pompée depuis que nous l'avons quitté après son triomphe sur les gladiateurs.